Radio Kapi. Oh, Kapi.
À la une, cet incendie survenu ce matin dans un port à Maluku, ici à Kinshasa. Bilan, un blessé et des dégâts matériels importants. Le feu est parti du contact entre le carburant et un foyer allumé par une femme qui cuisinait. Témoignage du président des armateurs, vous l'entendrez. 15 morts, dont une dizaine d'enfants déplacés et un militaire fardessé. Bilan d'une nouvelle attaque de la Codeco la nuit dernière au site de Loda, territoire de Djougou en Ituri. Un bilan qui pourrait être alourdi, n'eût été l'intervention de la MONUSCO, rapporte la société civile Force Vive. Et puis, l'invité de ce soir, Kiko Biafata Kifilemon, bourgmestre de la commune rurale de Kalima dans le Maniema, il nous parle de l'état de lieu de sa commune qui fait face à plusieurs difficultés, tant sur le plan administratif que social. Mais d'abord cette nouvelle, Dieudonné Kalouba Diboa et Prince Fungwa Molima, respectivement juge président et juge de la Cour constitutionnelle, ne font plus partie de cette haute juridiction. C'est le résultat du tirage au sort opéré ce mardi par les juges de la Haute Cour. En dépit de leur mandat de 9 ans selon la loi, tous les 3 ans, la Cour procède au renouvellement de un tiers de ses membres qui peuvent être aussi réélus. Le troisième qui était aussi concerné par ce tirage, c'est Polycarpe Mungu, déjà décédé récemment. La prochaine étape consistera à leur remplacement à la Cour par leur composante de provenance, à savoir l'institution président de la République, le Conseil supérieur de la magistrature et le Sénat, d'où était venu Feu Mongoul. Madame, Messieurs, bonsoir. Un blessé et des dégâts matériels importants. Bilan d'un incendie qui s'est déclaré ce matin au port appelé Port du Général dans la commune de Maluku, ici à Kinshasa. Information rapportée par le commandant de la police en Sélé. D'après les témoignages, cela s'est produit lors du déchargement des bidons et fûts de carburant d'un camion avant l'embarquement dans une baleinière. Le carburant est entré en contact avec le foyer allumé par une femme qui cuisinait, témoigne Didier Mukoma, président des armateurs. Il a été joint par Dandy Bumpela.
C'est un incendie qui s'est passé au niveau de Maluku, dans un des ports qu'on appelle le port du Général, juste à côté de Tifosco. Il y a un camion qui est venu livrer du carburant là-bas. Il y a un fort vent qui est passé par là et puis ça a créé l'incendie par rapport aux mamans qui sont là-bas avec leurs braseros en train de préparer tout le temps là. Parce que comme vous savez, nos ports ne sont pas organisés. C'est la cuisine, ce sont les hôpitaux, c'est tout ce qui se passe là-bas, ce sont des maisons. Donc tout se passe dans des ports et dans des bateaux. C'est ce qui a fait que c'est là qu'il y a cet incendie au niveau des ports de Maluku là. Jusque là, on n'a pas encore eu le bilan sur une perte de vies humaines, à part les dégâts matériels qui sont constatés. Jusque là, il n'y a pas de morts.
De son côté, le commandant de la police de Sélé, le colonel Giscard Mwakitawe, parle d'un fût qui se serait percé en tombant du camion, entraînant ses dégâts. Il précise que le chauffeur et son convoyeur sont gardés à la police. Parmi les biens incendiés, on compte la baleinière, le camion et des marchandises des commerçants. Pour rappel, le 27 février dernier, un autre incendie lié au carburant avait embrasé une baleinière. Le bilan faisait état d'un mort et 8 personnes brûlées à différents degrés. Direction l'Ituri, une nouvelle attaque des miliciens de la Codeco a fait 15 morts, dont une dizaine d'enfants déplacés et un militaire fardessé. Attaque survenue la nuit dernière au site de Loda, dans le territoire de Djougou. Selon la coordination provinciale de la société civile Force Vive, ce bilan serait plus lourd sans l'intervention des casques bleus de la MONUSCO qui ont délogé ces assaillants. Cette structure estime que cette énième attaque meurtrière contre des civils est un sabotage de l'armée. Elle demande au chef de l'État de lever la mesure de l'état de siège qui a montré ses limites, le récit de Martial Kizabiamungu.
Cette nouvelle attaque meurtrière est intervenue aux environs des 22h lundi au site de déplacés de Loda situé à 5 km du centre commercial de Fataki dans les territoires de Djougou. La coordination de la société civile Force Vive de l'Ituri qui cite des témoins indique que la population a été surprise par des tirs nourris de ces rebelles. 14 civils dont 10 enfants ont été abattus par balles et à la machette. Son coordonnateur Didonné Lossa parle des morts de trop et demande au président de la République de mettre fin à l'état de siège qui n'a pas produit les résultats escomptés, notamment d'imposer la paix à l'Ituri.
C'est inimaginable que le site des déplacés soit attaqué pour énième. La levée immédiate de l'état de siège, on doit diligenter urgentement une enquête.
Cette structure citoyenne salue l'intervention du contingent népalais de la MONUSCO arrivé le premier sur le lieu de l'attaque, avec les FARDC arrivés quelques minutes après. L'intervention des deux forces a permis de limiter le nombre de morts. Au cours des accrochages avec ces assaillants, un militaire de FARDC est mort sur le champ de bataille. Signalons qu'environ 70 personnes ont été tuées dans les territoires d'Ndjougou en l'espace de 2 jours. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Par ailleurs, les assaillants de la CODECO ont constaté des failles dans les dispositifs sécuritaires en Ituri depuis l'installation de l'état de siège, ce qui serait à la base de cette montée subite des atrocités dans le territoire de Djougou ces derniers jours. Ces propos sont du professeur Chaubert Agenonga de l'université de Kisangani. Il a dit ce mardi à Radio Kapi, pour ce spécialiste des questions de sécurité et de sociologie militaire, ces attaques des miliciens de la CODECO constituent une pression sur le gouvernement pour pousser ce dernier à satisfaire aux revendications de ce groupe armé et pour la levée de l'état de siège. Parmi les pistes de solution pour sortir de cette crise, il propose au gouvernement de renforcer les FARDC avec des équipements autour des bastions bien connus des assaillants, cela en vue d'exercer le maximum de pression sur ce groupe armé et le contraindre à s'y rendre aux forces de sécurité. Le professeur Chaubert Agenonga, joint par Martial Kiza.
Les miliciens ont constaté qu'il y a des failles dans les dispositifs sécuritaires depuis que l'état de siège a été lancé. Et aucune des opérations de grande envergure qui étaient initialement prévues contre ces miliciens n'a été lancée. Et du coup, ils en profitent pour lancer un défi. Donc, et il faudrait comprendre évidemment cette escalade de violence comme un message lancé au gouvernement pour que ce dernier rencontre les préoccupations des miliciens contenues dans leur cahier de charges. Le gouvernement puisse plutôt renforcer les dispositifs sécuritaires en hommes et en matériel singulièrement autour des bastions de ces miliciens. Ils sont clairement connus en vue d'exercer le maximum de pression et cela les contraindrait évidemment à se rendre aux forces de la défense et de sécurité.
Parlant de l'état de siège, Amnesty International demande au président Félix-Antoine Tshisekedi de révoquer immédiatement tous les pouvoirs accordés aux juridictions militaires pour juger les civils dans le cadre de l'état de siège. C'est l'une des recommandations contenues dans le rapport intitulé RDC, la justice et les libertés en état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Ce rapport a été publié et présenté à la presse ce mardi à Kinshasa par Amnesty International. D'autres détails avec vous, Jeff Ngoy Mulunda.
Ce rapport insiste que le président Tshisekedi veille à ce que l'état de siège ne devienne pas un régime permanent en établissant un plan de sortie clair. La militarisation du système judiciaire a encore davantage mis en péril l'accès à la justice et le droit à un procès équitable, allègue Amnesty International. À l'en croire, en mars 2022, les pouvoirs donnés à la justice militaire de juger des civils ont été révis pour couvrir une dizaine d'infractions pénales. Mais cette révision, selon Amnesty, n'est toujours pas conforme aux normes internationales. L'état de siège actuellement en vigueur à Ituri et au Nord Kivu n'a pas permis d'améliorer la protection de la population civile ni la situation générale en matière des droits humains, rapporte l'ONG. Elle demande au gouvernement notamment de libérer immédiatement toutes les personnes détenues arbitrairement et de leur donner accès à la justice et à des recours appropriés. Amnesty a mené ses recherches sur l'état de siège d'août 2021 à avril 2022. Son rapport est fondé sur 44 entretiens réalisés par téléphone avec des magistrats, avocats et défenseurs des droits humains et des journalistes.
Pays minier par excellence, la RDC s'est engagée dans une approche de gestion efficace de ses ressources naturelles et cela en intégrant la dimension de développement et transformation locale des minerais. Ce sont les propos du Premier ministre Samalou Kondé. Il s'est exprimé ainsi ce mardi au cours du forum minier Indaba qui s'est tient depuis hier à Cape Town en Afrique du Sud. Jean-Michel Samalou Kondé est revenu aussi sur l'important rôle que la RDC va jouer dans la transition énergétique étant le premier producteur mondial du cobalt. L'essentiel du discours du Premier ministre congolais avec vous, Cynthia Bashizi Nabizana.
Comme nous l'avions précédemment annoncé, le Premier ministre était dans une opération séduction auprès des milliers d'investisseurs présents au Forum Indaba à Cape Town. Et il a pour cela étalé tous les atouts du pays. L'RDC est dotée d'importants gisements. Nous avons le cuivre, le cobalt, le zinc, l'étain, le manganèse, l'or, le diamant, la cassitérite, le wolframite et le coltan, pour ne citer que cela. Et le pays aura donc un rôle de premier plan à jouer dans la transition énergétique en cours à l'échelle mondiale dans le secteur des batteries électriques et des énergies propres. Mais il y a un bémol. En effet, avec toutes ses potentialités, la RDC n'est explorée qu'à hauteur de 19%. Le Premier ministre s'est dit conscient des contraintes, surtout énergétiques, qui affectent l'essor d'une industrie minière congolaise. Mais cela constitue aussi une opportunité qui s'offre à tout investisseur intéressé par ce secteur économique dans le cadre des partenariats gagnant-gagnant, a souligné le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde.
Autre nouvelle, les députés nationaux disent être préoccupés par la situation des non-paiements depuis 2 ans de la prime des enseignants ayant surveillé le test national de fin d'études primaires ou examen national de fin d'études primaires et NAFEP, Tony Mwaba et Nicolas Kazadi, respectivement ministres de l'EPST et des Finances, se sont expliqués hier sur la question devant la commission mixte ECOFIN socioculturelle de la Chambre basse du Parlement, ce en vue d'obtenir le paiement des enseignants avant la tenue du prochain ENAFEP en juin prochain. Les deux commissions projettent aussi d'inviter l'inspecteur général des finances et le ministre du budget, Michel Kifindangoy.
Au sortir de cette audition, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique s'est dit satisfait d'avoir éclairé la lanterne des élus nationaux et espère voir la vérité éclater au grand jour sur les prétendus détournements qu'il avait opposés avec l'inspecteur général des finances, Tony Mwaba.
Monsieur Alinguet avait crié un moment qu'il y a eu détournement de 16 millions. Je viens de présenter la situation. Il appartient maintenant à tous ceux qui interviennent dans la chaîne de dépenses de venir expliquer où sont partis les fonds destinés à la paye des intervenants du TENAFEP, édition 2020, édition 2021.
Entre-temps, l'édition 2022 du TENAFEP est déjà dans les pipelines et les prestataires tiennent d'abord et avant tout à l'apurement des arriérés de 2020-2021, souligne le coprésident de la commission mixte, Léon Mondolé.
Ça fait 2 ans, les intervenants à ces tests n'accèdent pas à leur rémunération. Et si on n'est pas attentif à cette question, l'exercice 2022 risque de ne pas se dérouler normalement.
À en croire Léon Mondolé, la commission mixte ECOFIN socioculturelle invitera aussi le ministre du budget et l'IGF, qui est très cité dans ce dossier, pour voir ensemble comment décanter cette situation.
Santé, au Nord Kivu, la société civile de Kamandi dans le territoire de Lubero s'inquiète de l'augmentation des cas de malnutrition ces derniers jours dans cette localité de la zone de santé de Kaina. Plus d'une centaine d'enfants seraient affectés. Sami Sakumi, président de la société civile de Kamandi, qui dit avoir tiré ses données au niveau du centre de santé de référence de la place, affirme que cette malnutrition est la conséquence de la carence des produits agricoles depuis quelques semaines dans cette zone. Sami Sakumi explique la situation au téléphone de Grâce à Mzati.
Cet effet-là a occasionné des cas de malnutrition qui est visible dans l'agglomération, comme ici à Kamandi. Les sources que nous avons à provenance du centre de santé de référence, nous avons 59 cas d'enfants de 6 à 59 mois admis avec malnutrition aiguë sévère. Il y a encore 110 cas d'enfants de 6 à 59 mois qui souffrent la malnutrition modérée. Et quant aux femmes, il y a 174 cas de femmes allaitantes vie mesurée avec périmètre brachial inférieur à 230 mm qui souffrent la malnutrition. Il y a aussi les femmes enceintes. Nous avons 59 cas qui souffrent de la malnutrition et qui est vie mesurée avec périmètre brachial inférieur à 230 mm.
La plupart de ces femmes et enfants sont des déplacés. Ils sont là sans aucune assistance humanitaire ni gouvernementale.
Contacté, le médecin chef de zone de santé de Kaina confirme des cas de malnutrition dans la zone, mais ne confirme pas les chiffres évoqués par la société civile de Kamandi. Toutefois, Dr Aloïs Maliabwana dit avoir dépêché des équipes sur terrain pour la collecte des données. Santé toujours, la province du Sud qui vous connaît actuellement des épidémies de rougeole et de choléra dans certains territoires. Cette situation reste jusqu'ici inquiétante et la division provinciale de la santé dit être en train de la gérer. Jean-Baptiste Ntonga nous fait le point.
Selon la division provinciale de la santé au Sud Kivu, la zone de santé de Lulingu dans le territoire de Shabunda a eu à notifier la semaine dernière 23 cas de rougeole, alors que la semaine antérieure il y avait 19 cas. Aucun cas de décès n'est signalé. Et dans le territoire de Kabare, la croissance des cas de choléra dans la zone de santé de Katana devient aussi inquiétante. La semaine antérieure, on a eu 16 cas, dont 2 décès, et la semaine qui vient de s'écouler jusqu'à samedi dernier, 7 cas. Écoutons les propos de Dr Baizire, chargé de la communication à la division provinciale de la santé.
Il y a certains parents qui n'arrivent pas à faire vacciner correctement leurs enfants. Par moment, ce sont des ruptures effectivement de vaccins. Et pour le moment, nous sommes en train de planifier une campagne de rougeole pour voir comment augmenter la protection des enfants contre cette maladie. Et Katana est déjà en épidémie de choléra. Nous avons approvisionné la zone à médicaments de prise en charge, probablement nous aurons à contenir quand même cette épidémie.
Notons que depuis janvier 2022 jusqu'aujourd'hui, la zone de santé de Lulingu a déjà enregistré 195 cas de rougeole et la zone de santé de Katana plus de 33 cas de choléra avec 2 décès. Bukavu, Jean-Baptiste Ntonga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Nous sommes au Burkina Faso. Le tribunal militaire de Ouagadougou a condamné ce mardi l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré et 9 autres accusés à payer plus de 800 millions de francs CFA, soit 1,2 million d'euros des dommages et intérêts aux ayants droit de l'ex-chef de l'État Thomas Sankara et de ses compagnons assassinés en 1987. Selon la décision de justice, l'État burkinabé devra dédommager les ayants droit si les condamnés ne sont pas en mesure de payer les sommes. Le tribunal militaire a cependant rejeté une demande de restitution des biens de Thomas Sankara à sa famille.
L'invité.
Il nous vient du Maniema. Nous recevons Kiko Biafata Kifilemon, bourgmestre de la commune rurale de Kalima. Il nous parle de l'état des lieux de sa commune qui fait face à plusieurs difficultés, tant sur le plan administratif que social. Il sollicite ainsi l'intervention des autorités à tous les niveaux. Kiko Biafata qui s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur Kiko Biafata Kifilemon, bonjour.
Bonjour, madame journaliste.
Bourgmestre de la commune rurale de Kalima, parlez-nous un peu de l'état de lieu de ta commune.
Oui, je suis le bourgmestre de la commune, comme vous l'avez dit. J'aimerais seulement vous parler brièvement par rapport à la situation de mon entité, comment fonctionne. Les bureaux de la commune fonctionnent dans des maisons de location. On paye les frais de location, c'est à 150 000 francs congolais. En outre, il y a les institutions universitaires, l'ISTEM, l'ISP, l'IML, qui fonctionnaient dans les anciens bâtiments de la Sakima abandonnés. Leurs terrains sont là. Il faut seulement une construction de bâtiments par l'État congolais pour que ces institutions trouvent leurs bâtiments propres à elles. En outre, il y a aussi les écoles primaires et secondaires qui sont aussi nombreuses dans la commune de Kalima, qui fonctionnent aussi dans des conditions difficiles. C'est une difficulté de la part de l'enseignement. Alors, il y a aussi les cas des agents de l'État qui ne sont pas payés, qui sont entrés d'encadrer dans la commune. Beaucoup d'agents sont sortis dans l'arrêté du ministre national, mais ces numéros ne sont pas mécanisés et payés. Ils traînent dans leur poche. On attend toujours le gouvernement qui doit intervenir pour que ces agents travaillent dans de bonnes conditions, puisque ils sont irréguliers pour se débrouiller pour vivre dans leur famille.
Kalima, c'est une cité minière. Quelle est la situation socio-économique de la population?
Effectivement, la commune de Kalima, c'est une ancienne direction, c'est la direction générale de la Sakima au Congo. Là où il y a aussi des maisons de traitement des minéraux et beaucoup aussi des commerçants, des opérateurs économiques qui achètent de l'or. Mais la commune ne bénéficie rien, n'est pas alignée pour les redevances de tous ces minéraux qui se produisent dans la commune pour aider mon entité au développement et à l'avancement de tous les projets que nous avons pour notre commune.
Comment expliquer les minerais extraits sur place mais qui ne bénéficient pas à la population?
C'est-à-dire que les minerais qui sont ici sont traités. Ils sont extraits dans des entités en dehors de la commune. Il y a, par exemple, le secteur de Béa, il y a les territoires de Kailo et d'autres milliers.
Et nous avons appris que dans les sites miniers, il y a la présence des enfants. Confirmez-vous cette information?
Effectivement, nous avons toujours dit, la police des mines fait toujours la chasse aux enfants mineurs dans des sites miniers. Ils disent toujours qu'ils ont des difficultés puisque leurs parents ne sont pas en mesure d'aller faire étudier. C'est pourquoi ils sont en dispersion. Mais l'effectif seulement est trop maigre pour la police des mines. C'est pourquoi je voudrais demander de renforcer la police et la police des mines pour vraiment entrer pour m'aider dans cette situation.
Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les routes de dessertes agricoles de cette commune?
Oui, la commune de Kalima a cette grande difficulté. La route qui circule dans tous les quartiers, nous demandons seulement la dotation des matériels à travers les gouvernements, à travers les organismes nationaux et internationaux, même aux gens qui sont responsables des maisons de traitement ici à Kalima, peuvent nous aider pour nous accompagner. La jeunesse est là, la main d'œuvre est là, mais il n'y a pas de matériel pour ces travaux.
Qu'en est-il des structures sanitaires? La population bénéficie des soins de qualité?
Effectivement, il y a des structures sanitaires qui sont ici, mais seulement il n'y a pas des matériels suffisants pour les soins de qualité.
Monsieur le bourgmestre, en vous entendant parler, on a l'impression que tout ne va pas, ce qui a un sérieux problème. Profitant de cette occasion, qu'est-ce que vous pouvez dire au gouvernement?
Je demande seulement au gouvernement comment chercher une solution aux difficultés de mon entité. La population de Kalima a besoin de vivre comme partout ailleurs.
Est-ce que la commune reçoit des rétrocessions? Si oui, les montants reçus vous permettent de bien travailler?
Pour cette année, par exemple l'année 2021, nous avons reçu 4 mois. La rétrocession, ça ne suffit pas pour répondre à nous tous les besoins de notre entité. En tout cas, ce que je peux demander, c'est que le gouvernement peut penser à réajuster les montants puisque ça ne suffit pas pour répondre aux besoins de développement de notre commune.
Monsieur Kikobie Fata Kifilemon, la Radio Okapi vous dit merci.
Moi, je remercie aussi la Radio Okapi.
Le bourgmestre de la commune rurale de Kalima Omaniema répondait aux questions de Florence Kizalunga. C'est la fin de ce journal supervisé par Alain Rongmouchinj. Mimi Kindou était à la technique et devant ce micro, Belinda Bosuma. Merci de rester branché sur la fréquence de la paix.